vivre ces entretiens Alzheimer avec une autre initiative tout aussi passionnante. J'aimerais vous présenter Audrey Beauclet, qui est directrice d'un établissement de Helena Santé, hein, qui s'appelle la Villa Amélie à Saint-Rogatien près de La Rochelle, et qui est pilote du projet Sens, plus exactement copilote avec le docteur Laurence Joitel, qui est médecin gériatre, référent démarche Sens dans le groupe Helena Santé. Je vous rappelle que ce groupe, c'est un groupe d'établissements médico-sociaux, 70 établissements au total, dont le siège est près de Nantes. Alors, docteur Joitel, vous êtes spécialiste des pathologies cognitives, vous vous intéressez plus particulièrement aux thérapies non médicamenteuses. Votre mission chez Helena Santé, c'est le projet Sens, hein, qui vise à améliorer l'accompagnement des personnes atteintes de ces maladies. Et avec Audrey Beauclet, hein, donc toutes les deux, vous allez nous présenter ce projet qui a pris un tournant un peu particulier avec la crise sanitaire, hein, avec le coronavirus. Donc aujourd'hui, quels sont les nouveaux axes de ce projet, les nouvelles pistes, les innovations, puisqu'il faut bien le dire, hein, il y a eu un avant et après Covid-19. Je vous donne aussi ce micro. Voilà, vous avez un micro toutes les deux.
C'est mieux comme ça ? Merci. Bonjour, merci de votre attention. Donc, ce qu'on va vous présenter, en fait, c'est le virage, comme vous avez pu l'expliquer, qu'on nous a fait prendre la crise Covid. On a, depuis 2018, initié au sein du groupe un projet qui s'appelait le projet APAMN et qui avait pour objectif de développer notre expertise dans l'accompagnement des personnes atteintes de maladies neuroévolutives. On a dans nos établissements, une grande majorité de nos établissements qui disposent d'unités spécifiques pour personnes atteintes de maladies neuroévolutives, dites unités protégées, dont deux établissements qui sont spécifiques 100% Alzheimer. Et on avait à cœur d'accompagner l'évolution de ces résidents au sein de nos établissements. Donc ce projet, il a été mené en 2018 avec une première étape qui a été de faire un bilan de nos forces et de nos faiblesses au sein de nos établissements et de pouvoir capitaliser et construire des solutions innovantes dans l'accompagnement de ces personnes. Fort de cette première étape réalisée en 2018 et 2019, en 2020, on a décidé de pérenniser ce projet qui est devenu une démarche au long cours qui s'appelle la démarche Sens, que nous menons en partenariat avec l'ensemble des établissements, des thérapeutes et des médecins coordonnateurs du groupe, et qui a pour objectif, en fait, de continuer à se poser des questions, à innover et à apporter des accompagnements de plus en plus pertinents et qui répondent aux besoins évoluants des résidents qu'on accompagne. Donc notre état des lieux de fin 2019, c'était quoi ? C'était de se dire qu'aujourd'hui, quand les résidents entrent au sein de nos établissements, en tout cas les résidents atteints de maladies neuroévolutives, ils arrivent de plus en plus tard, ce qui va vous paraître normal au vu de tout ce qui se fait à domicile aujourd'hui. Et du coup, ils arrivent dans nos établissements avec des troubles de plus en plus prononcés, qui sont de moins en moins simples à accompagner, en tout cas des situations de plus en plus complexes. Et parallèlement, on s'aperçoit que la part des résidents atteints de maladies neuroévolutives au sein de nos établissements augmente également. En 2019, quand on a fait nos statistiques, on se rend compte que même en dehors des unités protégées, 80% de nos résidents sont atteints d'une maladie neuroévolutive ou d'une pathologie vasculaire avec des troubles plus ou moins avancés. Donc ça, c'est le constat qu'on a fait sur l'évolution des résidents qui arrivent chez nous. Après, on s'est questionné sur nos accompagnements, avec plusieurs difficultés. Des collaborateurs, certains collaborateurs, pas tous, mais des soignants qui ont des difficultés face à la gestion de certains troubles, des moments clés qui peuvent poser problème, les refus, les difficultés au niveau des repas, les refus au niveau des soins d'hygiène, par exemple. Et ensuite, un besoin de formation spécifique pourrait faire évoluer la totalité de nos professionnels, qu'ils soient soignants ou non soignants, parce qu'on parle souvent des soignants au sein de nos établissements, mais on a également des personnes qui s'occupent de l'entretien, qui s'occupent de la distribution des repas, etc., et qui sont au contact quotidien avec les résidents, et comment on les fait évoluer avec nous dans un accompagnement bienveillant des personnes. Et puis on s'aperçoit, pour avoir dans quelques établissements des assistants de soins en gérontologie, qui est une formation spécifique, complémentaire à la formation d'aide-soignant, que les établissements qui ont ces assistantes de soins en gérontologie ont un accompagnement un peu différent et qui serait intéressant de développer ce type de formation au sein de nos établissements. Ensuite, on a fait un troisième état des lieux, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, et on se rejoint là-dessus, c'est les bénéfices des thérapeutiques non médicamenteuses au sein de nos établissements. On a la totalité de nos établissements qui font et qui proposent aux résidents et aux aidants des thérapeutiques non médicamenteuses, mais elles ne sont pas évaluées. Et aussi, c'est assez disparate d'un établissement à l'autre, parce que, comme vous le précisiez, ça dépend des partenaires qu'on va avoir sur notre territoire, ça va dépendre de la sensibilité du comité de direction de l'établissement, et on a à cœur de pouvoir développer de manière massive les thérapeutiques non médicamenteuses sur l'ensemble de nos établissements. Et puis ensuite, on a re-questionné trois autres choses. La place des aidants, et vous le verrez tout à l'heure que l'analyse en crise Covid est très intéressante sur quelle place on a laissé aux aidants et comment on peut faire évoluer ça. L'architecture de nos établissements, on a des établissements qui sont 90% neufs, donc on est quand même dans des établissements où l'architecture est assez favorable, mais ça ne nous empêche pas de nous poser des questions et de réfléchir à comment on peut encore optimiser. Et ensuite, les questions éthiques de liberté, de droit d'aller et venir sont des questions qu'on continue de se poser régulièrement.
C'est pas très Covid, ça. Bonjour et merci à tous, docteur Joitel. Donc j'enchaîne un tout petit peu sur la présentation. Comme l'expliquait Audrey Beauclé, il y a eu tout un état des lieux dans le cadre de ce projet APAM réalisé par le groupe LNA Santé jusqu'en janvier 2020. Et janvier 2020, finalement, on arrive sur cette démarche au sens qui prend d'ailleurs tout son sens, vous allez le voir, en post-Covid. Moi, j'intègre le groupe à ce moment-là. Je suis médecin gériatre. J'ai travaillé dans le médico-social, sanitaire, mais aussi en libéral sur l'approche de ces thérapies non médicamenteuses. Et donc, j'arrive dans le groupe à ce moment-là. Et l'idée de se dire il y aura un avant-après cette crise sanitaire, elle est venue bouleverser, traumatiser à la fois les résidents, à la fois les familles, mais aussi nos soignants. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas faire comme si ça n'avait pas existé. Et qu'il y a eu, à l'intérieur de nos établissements, hein, l'ensemble de nos établissements, il y a eu, par cette crise sanitaire, par ces contraintes, des modifications organisationnelles, des modifications en termes de comportement chez certains résidents, mais aussi de la créativité chez nos soignants, de la créativité chez nos familles. On parlait tout à l'heure du numérique qui est entré dans nos EHPAD, mais on l'a vu, les tablettes sont arrivées, on a créé, on a innové. Et donc, on s'est dit, la démarche sens, elle va devoir capitaliser sur cette expérience, en fait, malgré tout, sur cette expérience de crise sanitaire. Et donc, on s'est déplacé avec Audrey Beauclé sur six établissements du groupe. Voilà, six établissements du groupe. Encore une fois, ces six établissements ont été sélectionnés parce qu'ils étaient plus spécialisés, plus dédiés à l'accompagnement de ces patients atteints de pathologies dites cognitives. Hein. Quand je dis patients atteints de pathologies cognitives, je parle des maladies d'Alzheimer, maladies apparentées, mais toutes les autres pathologies neuroévolutives. Et donc, on a pu visiter six établissements du groupe, donc dédiés. Vous voyez bien, ces établissements bénéficiaient de PASA. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, le pôle d'activité de soins adaptés. L'UHR, unité d'hospitalisation renforcée, la plateforme de répit à Olonne. Donc l'idée de ces visites n'était pas ni des audits, ni des plannings bien établis. On avait l'idée d'avoir vraiment une immersion, en fait, auprès des soignants et des collaborateurs. On a d'ailleurs, lors de ces visites, monté aucun planning. L'idée, c'était de rencontrer les collaborateurs au gré de la journée avec des entretiens dits semi-directifs, c'est-à-dire qu'on avait une trame d'entretien qui était libre. Et on a pu rencontrer 50 collaborateurs au total sur toutes ces visites, donc des collaborateurs plutôt profil soignant, donc aide-soignant, maîtresse de maison, qui est une particularité chez LNA. Donc les maîtresses de maison, les psychologues, les ergothérapeutes, certains MEDEC, et aussi des non-soignants, parce qu'il était pertinent aussi d'aller interroger qu'est-ce qu'avait créé cette crise Covid et éventuellement quelles avaient été la créativité de terrain, les organisations nouvelles qu'on pouvait faire perdurer en post-Covid. Donc ces entretiens semi-directifs ont été assez longs, laborieux. On a dû réanalyser, repasser à la moulinette l'ensemble de ces entretiens individuels qui ont duré en moyenne 30 à 45 minutes par entretien. L'idée, c'était d'être au plus près du discours des soignants. Je crois que c'est important. L'expérience de terrain, elle est primordiale dans ce qu'on est capable de créer dans un groupe. Et qu'il ne faut pas oublier que cette crise, elle est venue quand même bouleverser nos pratiques. Donc l'idée aujourd'hui, c'est quand même de vous donner quelques enseignements. Alors on a eu de nombreux enseignements par ces visites, mais aussi par des analyses statistiques, parce qu'on a la chance d'avoir un seul et même outil sur le groupe LNA. Donc on a NetSoins, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un logiciel métier, donc ça nous permet d'extrapoler quand même pas mal de données quantitatives. L'idée aujourd'hui, c'est, on va faire court parce qu'on avait déjà peu de temps, mais l'idée c'était de vous donner au moins trois résultats qui me paraissaient intéressants à vous fournir aujourd'hui. Donc le premier résultat, c'est le comportement des résidents. Et ça, ça a été quand même une... malgré toutes les appréhensions qu'on pouvait avoir sur cette crise Covid, on s'est dit, dans nos unités protégées, comment ça va se passer, ces contraintes sanitaires, en fait, ces confinements en chambre, ces isolements en chambre, comment vont se comporter les patients qui ne comprennent pas l'enjeu et parfois n'ont même pas conscience de cette crise, en fait. Et alors, étrangement, de manière unanime, tous les établissements, en tout cas, qu'on a visités, nous ont dit... Ces unités très, très calmes. On n'a pas eu de majoration de troubles du comportement, d'hyproductif, d'agitation, de cris, de déambulation. Et au contraire, en fait, on avait une espèce de sérénité qui était ambiante dans ces unités. Alors, qui dit sérénité dit calme. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on a pu échanger avec nos collaborateurs. Ça veut dire quoi, des unités calmes? Ça veut probablement dire peut-être un peu résigné. Peut-être que nos résidents ont été, finalement, ils ont accepté très facilement nos contraintes dans une espèce d'apathie ou de résignation, en tout cas, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, c'était intéressant de se dire, mais c'est étrange, on ne s'attendait pas à ça, et nos unités étaient calmes. Alors, moi qui suis un peu embêtante sur les psychotropes et assez anti-médicaments, alors, pas sur les médicaments de recherche, mais tout ce qui est psychotropes et aux effets délétères, j'ai quand même été vérifiée, on est allé vérifier, de savoir s'il y avait eu une augmentation des prescriptions pendant cette période sur nos établissements. Il s'avère qu'heureusement, non. Donc, on se rend compte que ces unités étaient plus calmes, mais pour autant... sans que ce soit expliqué par le fait qu'on ait augmenté les neuroleptiques, les anxiolytiques, éventuellement les somnifères. C'est plutôt rassurant. Alors on est allé demander aux soignantes, d'après vous, pourquoi vous avez le sentiment que le travail était plus simple, en tout cas plus calme dans les unités? Et donc l'objectif quand même de ce que je vous donne là, c'est d'essayer de capitaliser sur cette crise, en se disant peut-être qu'il y a des choses qu'on peut garder après, nous, dans nos enseignements pour nos établissements. Alors, une des hypothèses, c'est l'arrêt de la surstimulation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par surstimulation? Dans nos unités, en fait, dans les unités d'EHPAD classiques ou unités protégées, on a beaucoup de résidents qui sont atteints de pathologies cognitives et qui peuvent s'auto-stimuler, en tout cas, par les déambulations, s'auto-agacer parfois, et faire monter, on le voit bien, le syndrome du coucher du soleil en fin de journée. Souvent, en fin de journée, dans les unités, ça devient moins calme parce que il y a une espèce d'auto-agacement mutuel, et puis sur le plan émotionnel, il se joue quelque chose. Il y en a un qui est agité, le voisin est agité, puis après ça monte. Donc en fait, le fait qu'il y ait ces unités un peu cocooning, que parfois ce soit même des confinements en chambre, on a eu un arrêt de cette surstimulation, déjà d'une. De deux, il y avait l'arrêt des visites famille, alors on va en reparler tout à l'heure, mais il y avait l'arrêt des kinés, l'arrêt des intervenants extérieurs, donc ça faisait beaucoup moins de va-et-vient dans ces unités qui étaient plus calmes pour le coup. On a arrêté aussi les repas. Les repas avaient lieu dans les unités, donc ça évitait aussi le déplacement qui pouvait générer parfois des troubles du comportement chez le patient. L'absence des familles, on en parlera tout à l'heure, parce que je crois que c'est un des enseignements centraux de cette crise Covid, et je crois qu'il faudra qu'on en discute, et je laisserai Audrey aborder ce sujet. Un enseignement de ces visites post-Covid, c'est l'individualisation des accompagnements. Alors ça, c'est quelque chose qui me plaît, auquel je crois depuis plusieurs années. C'est quoi l'individualisation des accompagnements? C'est que je crois dans les approches de soins, dans les thérapies non médicamenteuses. Je crois dans les accompagnements, d'autant plus qu'ils sont individualisés aux besoins du résident. Je m'explique. Il n'y a pas de sens à créer une activité pour une activité chez 15 résidents pour lequel, finalement, ça va marcher ou ça va être efficace seulement pour deux, en fonction de ses capacités langagières, de mémoire, de praxie. Et donc, plus on va individualiser les accompagnements, plus on sera pertinent. Et la crise Covid, elle nous a imposé d'individualiser nos accompagnements. C'est-à-dire que les résidents étaient en chambre, on était obligés dans un rapport duel, d'intimité, et qui a amélioré, finalement, à la fois le comportement éventuellement du résident, mais aussi le bien-être des soignants. On va le voir un peu plus tard. Alors, thérapeute devenu soignant, Ça, c'est une autre particularité chez LNA, mais qui peut se retrouver dans d'autres établissements. Les thérapeutes sont les psychologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens sont des à part entière des soignants. En tout cas, moi, je les considérais comme tels. Mais le Covid leur a imposé d'aller travailler toute la journée dans les unités. Donc, ils se sont fondus aux soignants. Et d'un seul coup, il y a eu un vie-ma-vie, finalement. Les soignants ont pris conscience de ce qu'était un thérapeute, et puis le thérapeute a pris conscience de ce qu'était un aide-soignant, et tout le monde était à la même enseigne. C'est un peu ce que les articles retrouvent sur ces retours post-Covid, mais le thérapeute a gagné en légitimité, et grâce à ce regard croisé, en fait, à travers un comportement, à travers une grimace, une douleur, en fait, il y a eu une montée en expertise qui se fait de manière indirecte, informelle, mais cet échange, elle permet une montée en expertise de nos soignants de terrain. Au cœur du métier, ça, c'est l'ambivalence, toute l'ambivalence de la crise Covid qui a créé à la fois chez les soignants une perte de sens dans cette crise sanitaire. On avait une perte de sens, on n'était pas là pour ça, pour faire du soin, en EHPAD d'ailleurs. Donc cette perte de sens et puis l'ambivalence d'être finalement retrouvé au cœur du métier parce qu'on n'avait plus de réunions, il n'y avait plus d'heures en fait. Et le temps était posé, donc on avait le temps d'être dans le rapport humain assez simple. Et ça, c'est plutôt formidable de pouvoir se permettre de dire ce rapport duel avec le patient. Il est qualitativement beaucoup plus important, parfois, que de mettre beaucoup de surstimulation. Et enfin, voilà, quand on a échangé avec tous les soignants sur les questions comportementales et sur les questions du bien-être du résident, ou en tout cas du mal-être, parce qu'on n'a pas de grille éventuelle aujourd'hui pour pouvoir statuer sur ce calme ressenti, on a eu de nombreuses questions éthiques que je ne vais pas évoquer là, mais qui parlent du droit à l'information, du consentement. Mais comme on a pu avoir, et je crois que toutes les crises, elles se doivent d'avoir ces questionnements éthiques, et l'accompagnement de nos patients atteints de pathologies cognitives est en principe, il vient provoquer de nombreux questionnements éthiques. Et quand on n'a plus de questionnements éthiques, c'est qu'on ne fait plus un travail de qualité, à mon sens. Donc voilà le premier élément de nos visites post-Covid. Il y a eu un deuxième enseignement de ces visites post-Covid, c'est la créativité des soignants, j'en parlais tout à l'heure, et je vais laisser Audrey Beauclé en parler, le fameux PASA itinérant.
Merci. Donc comme Laure l'expliquait, on avait la nécessité en fait de ne pas associer les résidents d'une unité de vie à un autre pour limiter le risque, c'est encore le cas aujourd'hui, de propagation en cas de virus. Pour autant, dans plusieurs établissements, on a des PASA. Donc, pour le faire très très court, le PASA, c'est un pôle d'activité et de soins adaptés. C'est le même principe qu'un accueil de jour au sein de l'établissement pour les résidents qui sont déjà dans l'établissement. Et en fait, c'est le maillon entre l'unité classique et l'unité protégée. C'est-à-dire qu'on va accueillir au PASA en journée, sur le même principe qu'un accueil de jour avec des activités de stimulation, des résidents qui sont aujourd'hui en unité de vie classique, en début ou milieu de maladie, qui ne nécessitent pas encore une unité protégée et à qui on va apporter toute cette stimulation dont on a parlé, sociale, physique, cognitive, pour retarder l'avancée, essayer de retarder, en tout cas, de stabiliser, pour retarder l'entrée en unité protégée. Dans plusieurs établissements, on a des PASA, sauf que le principe du PASA, c'est qu'en fait, ils vont des résidents de plusieurs unités de vie pour faire ces activités et qu'en l'occurrence, on se devait d'isoler les résidents les uns des autres. Donc sur l'établissement où je travaille au mois de mars, début de crise, on a supprimé le PASA et on a dit aux deux ASG qui travaillent au PASA, vous allez aller en renfort dans les autres unités de vie. Et puis au bout de 3 semaines, elles sont venues me voir en me disant, mais en fait, Madame Beauclé, on n'apporte pas de plus-value parce qu'on va aider à faire des toilettes, on va aider au repas, etc. Mais on n'a plus cette simulation, en tout cas on n'apporte plus autant de plus-value qu'on en apportait quand on faisait ces ateliers au PASA. Et on a décidé du coup de retravailler le PASA sous une autre forme, en PASA itinérant, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, on débriefait avec les équipes dans chaque unité de vie quels étaient les 4 ou 5 ou 6 résidents qui semblaient avoir le plus d'impact de la situation Covid, c'est-à-dire des résidents qui mangeaient moins bien parce qu'ils ne mangeaient plus à table avec d'autres résidents, des résidents qui avaient l'habitude de déambuler et qui déambulaient de moins en moins, ou des résidents qui, de par la diminution des visites familles ou des auxiliaires de vie, etc., nous semblaient moins alertes cognitivement. Donc toutes les semaines, on établissait avec les soignants des unités et les maîtresses de maison, qui sont les soignantes responsables de l'unité de vie, les 4 ou 5 résidents les plus à risque, ou en tout cas ceux sur lesquels on avait l'impression qu'il y avait une attention particulière à porter. Et l'équipe du PASA allait chaque jour s'occuper de ces 4 ou 5 résidents. Donc au lieu de travailler en 9h-17h, elles ont basculé une en 7h-14h et une en 14h-21h. Et on a pu proposer à un maximum de résidents des activités de stimulation en 1 pour 1 ou 3 résidents maximum en très petit comité pour respecter les consignes sanitaires. Donc elles changeaient d'unité de vie chaque jour. Et on a pu proposer et maintenir une stimulation importante à un maximum de nos résidents. On pensait l'arrêter très rapidement, et en fait, ça a tellement bien marché. En 1er septembre, on est repassé en PASA classique, et au 1er octobre, on est repassé en PASA itinérant. Quelques chiffres pour vous expliquer les bénéfices. En fait, l'avantage du PASA itinérant, c'est qu'il est beaucoup plus diffus. C'est-à-dire qu'on a une file active aujourd'hui sur notre établissement de 24 résidents susceptibles d'aller au PASA. Sur les 24, il y en a 15 qui y vont régulièrement. Les 9 autres refusaient d'aller au PASA. Ces 9 autres-là ont bénéficié depuis 6 mois d'activité, puisque comme c'est le PASA qui vient à eux, il n'y a plus de refus. On a aussi des résidents qui, dans les chiffres, parce qu'ils font un NPIES très particulier pour être dans les critères PASA, on a aussi des résidents qui ne faisaient pas partie des critères stricts entrée au PASA, mais pour qui on estimait qu'il y avait un besoin. On s'est autorisé sur le PASA itinérant à proposer des ateliers à ces résidents-là. Et on se rend compte que lorsque sur un mois de février, avant Covid, on avait 16 résidents qui bénéficiaient d'ateliers par mois, en mai et juin, on en a eu 70 et 74. Par contre, chaque résident avait 2 ou 3 ateliers par semaine, alors qu'avant, les 15 en avaient 5 ou 6. Mais ça nous a permis de réfléchir à travailler différemment nos accompagnements et de voir qu'en fait, on peut créer aussi d'autres formes d'accompagnement pour faire bénéficier en atelier thérapeutique plus de résidents. Dernier petit point qui nous a beaucoup bousculé du coup sur les retours Covid, c'était la place des familles. Comment ça s'est passé les unités de vie sans les familles ? Pour les soignants, il y a eu 2 aspects. On peut faire 2 si tu veux. Alors, le premier, c'était la responsabilité vis-à-vis des familles. C'est-à-dire, les familles ne sont pas là. Et on a la responsabilité seule de s'occuper au mieux de leurs conjoints, de leurs parents. Et comment on continue à garder lien avec des visios, des Skype, le plus longtemps possible pour pouvoir être transparent et démontrer aux familles qu'on ne les oublie pas. Ensuite, il y avait pour certains soignants une espèce de soulagement qui nous a assez étonnés du fait de ne pas avoir de famille, de ne pas avoir certains regards portés sur leur pratique, en disant, des fois, il y a des familles qui ne comprennent pas forcément ce qu'on fait ou pourquoi on le fait. On peut avoir certaines familles qui ont un regard jugeant sur nous. Et pour certains soignants qui ne sont pas hyper à l'aise ou qui sont plutôt jeunes dans leur pratique, ils ont perçu une espèce de soulagement à ne pas avoir le regard porté des familles au quotidien, tous les jours. Et puis aussi, il y a eu la question des visites difficiles, c'est-à-dire qu'on a des familles pour qui c'est difficile de venir rendre visite parce que ça renvoie de la culpabilité, parce que ça renvoie à une évolution de la maladie de son conjoint ou de son parent. Et il y avait la question de comment on peut aider les familles à se sentir mieux quand ils reviennent après le post-Covid. Avec aussi une problématique d'espace. Alors, on a pourtant des établissements qui sont très bien faits, avec des unités de vie, avec un espace de salon central qui est un espace de vie sociale. Mais les soignants nous disaient, en fait, peut-être que les résidents sont plus calmes aussi au sein de nos espaces de vie aujourd'hui, parce qu'il y a moins de monde et notamment, il y a moins de familles. On a questionné les équipes et on a questionné les familles sur qu'est-ce qui fait cette agitation, des fois, dans les salons des unités de vie. Et il y a plusieurs choses qui sont remontées par les thérapeutes, par les familles, par les équipes. C'était une visite de famille, c'est de l'émotion, négative ou positive. C'est de l'émotion, c'est de l'affect que nous, on n'apporte pas aux résidents. Et que du coup, moins d'affect, c'est moins de troubles, moins d'effusion. dans le sens positif comme dans le sens négatif du terme. L'apathie, ce n'est pas quelque chose de positif. Il y avait dans cette question des espaces des familles, qu'est-ce qui fait que c'est plus calme, avec moins de familles dans les salons ? Les soignants nous disaient, des fois, telle famille, elle n'est pas hyper à l'aise quand elle vient. Et du coup, comme son conjoint ne parle plus et est très évolué dans la maladie, elle va aller s'occuper d'autres résidents, puis souvent pas comme il faut, ou elle va aller interpeller d'autres familles, et puis ils vont discuter au milieu du salon, puis ça va faire du brouhaha. Et du coup, ce n'est pas facile pour accompagner les résidents dans ce contexte-là. Donc on a retourné aux équipes la question de qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'aujourd'hui, on profite de ce moment de retour des familles au sein de nos établissements pour mieux les aider et mieux les accompagner et mieux être partenaire avec eux. Donc avec plusieurs axes d'action que du coup on a intégrés dans nos priorités du projet Sens, qui est le soutien aux équipes à la compréhension des problématiques des familles, une sensibilisation et une formation aux problématiques des familles pour les équipes et vice-versa, et puis comme partenaire de soins sur le développement des thérapeutiques non médicamenteuses, notamment en compagnie des aidants, puisqu'on fait beaucoup de thérapeutiques non médicamenteuses au sein de nos établissements, mais pas assez en binôme avec les aidants.
Il y a la conclusion. Voilà. Je vois bien qu'on a... Désolé d'avoir dépassé un tout petit peu le temps. Donc je vais conclure sur cette diapo. Donc l'idée, c'était un peu de vous présenter les différents enseignements qu'on a eus de ces visites post-Covid immédiates. Il y a eu la crise sanitaire, en espérant qu'elle soit derrière nous et de manière définitive, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on se devait de capitaliser sur cette crise et ça a permis de remettre des priorités sur la démarche Sens. Une des priorités, c'est, vous l'avez compris, la place des aidants, comme Audrey Boclet l'a bien expliqué, des aidants, des familles, je ne sais pas comment on nomme, en tout cas, ce lien du proche qui a, encore une fois, avec beaucoup d'humilité quand on est en établissement, à accompagner les 10-15 dernières années de la maladie, le plus souvent à domicile. La nécessité d'une montée en expertise et une montée en compétences de nos équipes, donc en allant axer sur la formation d'équipes, mais aussi soignantes et non soignantes. Enfin, de se permettre d'innover. Le fameux PASA itinérant que Audrey a pu exprimer, c'est intéressant de se dire qu'un cahier des charges, parfois, il peut être bousculé. Un cahier des charges du PASA qui date maintenant de 2008, il peut être aussi bousculé parce qu'on y met du sens. La démarche, d'ailleurs, ça tire bien son nom. Et enfin, pour terminer, c'est le groupe Elena se dote quand même de nombreux thérapeutes avec beaucoup de techniques thérapie non médicamenteuses ou ateliers thérapeutiques. Et je crois qu'aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir mener à bien des études de terrain, en fait, sur l'impact de ces thérapies non médicamenteuses. On le voit sur le ping-pong. Moi, je pense à l'art-thérapie, je pense à la médiation par l'animal, la luminothérapie, qui sont des approches non négligeables dans l'amélioration de la qualité de vie du résident en EHPAD. Voilà, merci beaucoup. On a dépassé par le temps.
Merci à vous deux. C'était vraiment un exposé très vivant et passionnant. Est-ce qu'il y a quelques questions sur cette intervention, cette double intervention ? En attendant une question, j'aimerais quand même moi vous en poser une sur les thérapies non médicamenteuses qui vous passionnent, qui sont au centre de votre pratique. On sait qu'on manque de preuves scientifiques sur leur efficacité. Comment faire pour que ces thérapies justement fassent l'objet d'études plus solides et qu'elles fassent la démonstration de leur efficacité, notamment dans le cadre de la pathologie Alzheimer?
Alors c'est toute la grosse question de savoir à un moment donné, j'entendais mes confrères tout à l'heure, c'est intéressant en fait, mais il faut aussi qu'on soit nombreux médecins à se préoccuper de cette question importante dans l'accompagnement des malades d'Alzheimer. Je crois qu'il y a aussi ces accompagnements dits non médicamenteux, mais qui intéressent finalement un peu moins le corps médical, malheureusement, et le corps scientifique. Et je crois.
Mais quand même beaucoup les familles, on l'a vu avec le ping-pong, l'intérêt immédiat de ce sport.
Le groupe Elena a la chance d'avoir en fait au sein du groupe et du siège une cellule de recherche. Et donc, on va pouvoir redévelopper un peu l'étude de terrain sur l'impact de ces thérapies, de telle ou telle thérapie sur le comportemental, sur le sommeil. La difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir des critères des critères et des indicateurs qui soient fiables et scientifiquement prouvés. Donc il faut trouver des indicateurs qui soient reproductibles. Mais ça, c'est tout l'enjeu de beaucoup de médecins gériatres d'EHPAD. Hein. C'est une question qui nous est régulièrement posée. Comment on prouve que telle thérapie a un impact sur le plan moteur, sur le plan cognitif, sur le plan langagier, sur le plan sommeil et comportemental ?
Est-ce qu'il y a aussi un aspect financier à mettre en place ces études ? Parce que, c'est vrai, les médicaments, il y a des laboratoires derrière. Est-ce que pour les thérapies non médicamenteuses, on a un problème pour financer les études ?
Alors après, c'est la question du temps, oui, clairement, parce que nous, on a un groupe assez important, ce qui fait qu'on a des cohortes de patients qui peuvent être inclus assez rapidement. On a en termes de coûts, c'est surtout l'investissement humain de la cellule de recherche, de 2 ou 3 MEDEC. C'est plutôt du coût humain salarial, plus que d'investir, parce qu'on n'est pas en train d'investir dans un médicament qui peut changer. Encore une fois, l'objectif de ces thérapies non médicamenteuses, c'est non pas freiner la pathologie, ou encore peut-être si on peut y arriver, mais améliorer la qualité de vie du résident. Et je crois que c'est finalement ce qu'on partage tous comme objectif commun quand on travaille en EHPAD, en fait. C'est la qualité de vie et le quotidien qui soit amélioré sur le plan comportemental et vie sociale.
Est-ce qu'il y a une question ?
Adopter quelques un processus du mois de septembre, oui, puis changer, vous dites bon, on s'est un peu trompé, et vous revenez une grande mais allez, j'ai le mot qui vient.
Une grande souplesse peut-être.
Oui, c'est une grande souplesse.
L'agilité.
Vraiment, je crois que c'est ça, parce que bon, je serais plutôt de votre côté. Hein.
Très bien. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Vraiment, c'était un très bel exposé. Audrey Beauclet, docteur Laure Joitel. Merci beaucoup.